Alors, je m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une des fondatrices de l'association L214. J'ai prévu 64 slides pour 30 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez vos ceintures. Ça pourrait aller vite. Non, en fait, je suis hyper bavarde, je pourrais vous parler pendant 4 heures. Mais voilà, je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc L214, c'est une association de défense des animaux qui a été fondée en France par une poignée de personnes au départ. Alors la légende fabriquée par les journalistes voudrait que ce soit Sébastien et moi-même, mais en fait on était un petit peu plus nombreux que ces deux personnes-là. On était pas mal secoués par l'injustice de façon générale et plus particulièrement par l'injustice qui touche l'ensemble des animaux non humains. L214 a eu beaucoup de chance, alors beaucoup de travail aussi, mais aussi beaucoup de chance. C'était sans doute le bon moment pour naître en France en tant qu'association de défense des animaux avec un positionnement comme le nôtre, c'est-à-dire un positionnement abolitionniste et des actions un petit peu tout azimut avec un éventail assez large d'actions. Et puis pourquoi L214 alors vous connaissez peut-être le film L627 qui était un film sur le trafic de stupéfiants. Et du coup, ce film nous a un peu inspiré le nom L214 en s'appuyant sur le Code rural français qui reconnaît en 1976 pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles, ce qui ne les empêche pas d'être considérés comme des biens meubles par ailleurs. Voilà. Et ce qui nous intéressait, alors on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans cet article de loi, par exemple, placé par son propriétaire, ça sous-entend qu'un animal a un propriétaire, ce qui est quand même petit problème, mais en tout cas ce qui nous intéressait dedans c'était être sensible et puis conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Quand on regarde les conditions même d'élevage des animaux, voilà, on peut s'interroger. Une fois qu'on aura fait respecter l'article L214.1 du Code rural, sans doute on aura fini une bonne partie du boulot. Les objectifs de L214 sont assez prétentieux. Une révolution culturelle et politique majeure, prendre réellement en compte les intérêts des autres animaux et abolir les pratiques qui leur nuisent, en particulier l'abattage et la pêche. Donc c'est vraiment une vision à long terme, hein. On est utopiste mais réaliste en même temps. Mais il y a des avancées possibles, immédiates, consensuelles et bénéfiques sur de nombreux plans, et on peut nommer parmi les choses qui, à notre sens, on peut les obtenir quand même sur un temps assez court, la fin de l'élevage intensif qui est défini comme les élevages qui ne laissent pas d'accès à l'extérieur aux animaux, de la pêche industrielle et la démocratisation de l'alimentation végétale. Alors d'autant plus en France, pays de la gastronomie et aussi du chauvinisme. Hop. On appuie notre travail sur les appuis les plus solides et les fiables possibles. Les preuves sur le terrain, c'est ce qui a fait la réputation d'L214. Le fait d'aller chercher des images de ce qui se passe ici et maintenant. Donc ça, très très important, je pense que c'est ça qui a fait la renommée de L214, c'est le fait de pouvoir affirmer que ce qu'on montre, c'est ici et aujourd'hui, puisque en France, comme vous le savez peut-être pas, mais nos ministres défendent l'idée qu'en France, nous n'avons pas d'élevage intensif. Ça n'existe pas en France. Voilà, ça c'est juste les activistes qui disent ça, donc nous il a fallu qu'on fasse la démonstration que ça existe. On s'appuie sur les documentations aussi scientifiques, professionnelles et évidemment réglementaires. On avance des arguments qui sont aussi sur le plan de l'éthique. On a souvent des questionnements qui sont bien plus nombreux que les réponses, et puis une certitude que vraiment collectivement on peut être assez malin et intelligent pour mener un réel changement. Et quand on dit ça pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire une société qui soit assez intelligente pour avancer. Bon, ce qu'on voit pas forcément. Bref, on a toute une palette d'actions à notre actif. Évidemment, on a des sites web. Alors j'ai mis site au pluriel parce que autant on a d'idées, autant on a de sites internet à peu près. On est actif sur les réseaux sociaux. On a, pareil, pas une lettre d'info, mais des lettres d'info. On a notre L214 mag, Dominique en avait aujourd'hui, il y en a sur notre stand aussi L214, qui s'adresse plutôt aux 10-14 ans. Alors dedans, vous ne trouverez pas les images des enquêtes qu'on mène par ailleurs. On adapte notre communication au public qu'on va rencontrer. Quand on fait une animation en école hôtelière, on dit pas la même chose que quand on est sur le plateau d'une télé. Enfin, voilà, on essaye de voir où on est. On a notre département aussi, L214 éducation, et si vous avez répondu au quiz de Dominique tout l'après-midi, vous en savez déjà un petit peu plus. Bref, pour le grand public, y compris le jeune public, on a une palette d'actions et on est orienté solution, donc solution individuelle et action collective. Solution individuelle, c'est ben, on arrête de manger les animaux. Bon. Simple, basique, et puis collectivement, ben, on demande des choses ensemble. Et ensemble, ce qu'on va vers, enfin les interlocuteurs vers lesquels on va se tourner, ça va être les entreprises et les institutions. Avec deux grands axes, le recul des pires pratiques. Donc c'est ce qu'on a fait par exemple pour les poules pondeuses, les poulets, les cochons, et puis le développement de l'alimentation 100% végétale, c'est ce qu'on fait avec Vegoresto Pro. Et là, pareil, aux institutions, donc aux politiques comme aux entreprises, on amène de l'information, on mène des actions, et puis on accompagne des solutions. J'y reviendrai à la fin. Bon, point de vue éthique, je vais faire très court, c'est des questions qui sont soulevées, qui ont traversé les âges. Mon petit chouchou, c'est Pythagore. Je l'ai rencontré dès le collège. Je ne savais pas qu'il parlait d'autre chose que de triangle. Donc, j'ai été ravie de le retrouver après. Voilà, mais on voit que à travers les âges, voilà, je pense que depuis que les êtres humains mangent de la viande, en fait, ils se posent la question de est-ce que vraiment c'est légitime de continuer de faire tuer les animaux pour les manger. Des êtres doués de sensibilité, ça, je le passe très, très rapidement. La science nous disait il y a quelques temps que quand même les animaux c'était des mécaniques, mais maintenant, bah voilà, comme Franz De Waal nous pose la question, est-ce que c'est pas nous qui sommes trop bêtes pour comprendre l'intelligence des autres animaux ? La conscience, 2012, on peut pas dire que nous autres êtres humains on reconnaît l'intelligence des autres ou les consciences des autres, mais ça avance, ça avance, ça avance. En France, on a l'ANSES. Qui a émis un avis, donc c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui nous dit le bien-être animal, non seulement c'est un état physique, mais c'est aussi un état mental. Donc ils reconnaissent que les autres animaux ont aussi des états mentaux qui peuvent être positifs ou négatifs, c'est quand même pas mal important. Et très récemment, ça date de juin 2022, donc en France, on a des scientifiques qui sont quand même assez extraordinaires, notamment sur la question du foie gras. La première fois qu'on les a rencontrés, c'était sur un plateau télé, où nous défendions la position que quand même, lorsque on fait du foie gras, lorsqu'on gave des canards, il en résulte des souffrances pour les animaux. Et en face de nous, des scientifiques, blouse blanche et tout, soutenaient que aucun élément scientifique ne permet de dire que ces animaux souffrent. Donc voilà, s'en est suivi un bouquin de 200 et quelques pages où on a décortiqué les études de ces scientifiques pour montrer que c'était un petit chouille biaisé. On s'est dit, on ne va pas pouvoir se reposer sur des scientifiques français qui, à l'époque, étaient des zootechniciens, donc plutôt payés pour développer la productivité des animaux. Mais il y a quelques mois, maintenant ça va bientôt faire un an, il y a eu quand même un article dans la revue Sésame, qui est une revue justement éditée par des scientifiques, qui reconnaît que leurs études, elles ont surtout servi à du welfare washing en quelque sorte, et que voilà, il fallait que ça change. Et ça, c'est quand même une petite révolution. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est une petite révolution. Donc, eux disent, en élevage intensif, c'est pas possible d'améliorer le bien-être animal. Ça n'existera jamais. Et ils ne restreignent pas juste à l'élevage intensif. Ils disent qu'il y a aussi d'autres formes d'élevage où c'est même pas la peine d'imaginer qu'on va pouvoir ne serait-ce qu'améliorer quelque chose. Donc ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus pour la suite. Bon, tout ça, quelles conséquences pratiques? On se dit, oh là là, avec toutes ces avancées scientifiques, bah, il va y avoir des avancées. Eh ben non, nada, que dalle, rien. Bon. Alors l'élevage, notre consommation, donc les chiffres pour la France, je pense qu'en Belgique c'est quand même un petit peu moins, mais vous êtes un petit peu moins nombreux, donc bon, c'est normal, mais quand même, hein, dans le monde, ça fait plus de 1 000 milliards d'animaux qui passent chaque année de vie à trépas pour répondre à juste un plaisir gustatif. En France, on est encore à 80% d'animaux qui sont tués chaque année, qui viennent d'élevage intensif. C'est quand même juste énorme. Donc ça peut être des poules pondeuses. On peut parler de génétique, d'alimentation, comment on optimise les animaux pour les faire grossir le plus vite possible, au détriment de leur propre santé. Donc par exemple, pour les poulets de chair, ils grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950. Donc vous avez des poulets qui ont des têtes de poussin sur des corps de poulets qui peuvent plus se déplacer au bout d'un moment. On a montré les images de vaches à hublot, comment justement la recherche continue d'essayer d'optimiser les animaux. Pour les faire tenir dans ces conditions absolument terribles, eh bien, on pratique des mutilations, comme la coupe des queues des cochons, où récemment on a obtenu la condamnation d'un élevage. Alors c'est en appel, et en appel, ça pourrait très bien mal se passer, mais en tout cas, en première instance, pour la première fois en France, un élevage qui pratique la queue systématique des cochons dans son élevage a été condamné. Donc, bon, là aussi, ça avance. Mon Dieu, j'aime bien toujours voir les verres à moitié pleins. Voilà, donc l'élevage en France, mais voilà, est-ce qu'on sait que c'est en France? Ah, on ne sait pas, ça pourrait être partout dans le monde, puisque c'est quand même des conditions d'élevage plutôt, plutôt standards. Les manipulations aussi qui sont extrêmement violentes, là, le ramassage des dindes dans des caisses où elles sont à peine plus hautes qu'elles, c'est quelque chose qu'on a signalé au niveau de la Commission européenne notamment. Et puis, bah, les poissons, à ne pas oublier, hein, soit en pisciculture, soit en pêche. Voilà, là c'est de la pisciculture, des truites arc-en-ciel qui sont tuées. Alors elles sont étourdies, en fait, on ne sait pas trop si elles sont étourdies ou juste tétanisées par du dioxyde de carbone. Et puis bah, un certain nombre d'animaux qui terminent à la poubelle avant même d'avoir atteint l'âge d'être abattus parce qu'ils étaient chétifs, inutiles, en surnombre, blessés ou alors malades ou victimes d'épidémies comme en ce moment la grippe aviaire, beaucoup d'oiseaux sont tués pour éviter de propager une épidémie. On avait montré les images du broyage des poussins. Et puis, bah, noter que la vie des animaux, elle est extrêmement réduite, en fait, avec des espérances de vie qui peuvent être énormes. Voilà, enfin, c'est des très jeunes animaux que l'on consomme. Les conditions d'abattage, j'ai pas mis d'image, hein, avec étourdissement ou sans étourdissement. Mais à chaque fois, enfin, c'est assez terrible parce que quand on parle d'étourdissement, on parle quand même de percussion du crâne avec une destruction d'une partie du cerveau. On parle d'électronarcose, bon, autrement dit un coup de jus pour vous assommer. Et puis gazage au CO2, bah, ça consiste en une asphyxie et notamment pour les cochons avec un gaz qui est extrêmement douloureux. Et puis les abattages sans étourdissement qui concernent une partie des animaux pour des raisons religieuses et puis un très grand nombre de poissons. Le c'était mieux avant, quand même, de mon temps, hein. C'était mieux avant, bah, c'est pas sûr. Déjà, on tue deux fois plus aujourd'hui qu'en 1950 et quatre fois plus qu'au début du siècle. Et puis, il y a encore le mythe de l'élevage heureux dans les fermes de nos aïeux. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait la fête du cochon. Bah, c'est pas lui qui s'amuse ce jour-là, en fait. Voilà, bon, mais est-ce que, mis à part des questions d'habitude, de goût, est-ce que quelqu'un gagne dans toute cette affaire-là? Alors, au niveau de l'environnement, a priori, pas du tout. Bon, je ne vais pas redire tous les chiffres, je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Dernier rapport du GIEC, plutôt alarmant, hein, le monde est sur le point de franchir un seuil de température critique. Bon, c'est Forbes, ils sont pas super connus pour être super écolos. La déforestation, l'Amazonie qui atteint son point de bascule, plus vite que prévu. Oh, comment il a dit notre président? Oh, qui aurait pu prévoir ça? Le rapport du GIEC qui est censuré, avec le Brésil et l'Argentine qui sont des grands producteurs de viande de bœuf, qui tenaient à ce que le rapport évoque non pas la nécessité d'adopter un régime alimentaire végétal, mais plutôt un régime alimentaire équilibré. Alors, hein, ne soyons pas extrémistes. C'est revenu là, il y a eu un article il y a quelques jours, dans le brouillon du rapport, avant la relecture des politiques, c'était quand même écrit que les régimes végétaliens peuvent réduire, alors c'est plant-based, peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 50% par rapport au régime occidental moyen à forte intensité d'émissions. Ça, c'est pas dans le rapport, c'est dans le brouillon. Et ça a sauté à la rédaction finale. Et le coût de l'inaction, eh bien, il est juste énorme. Alors, c'est un rapport qui n'est pas récent, hein, il date de 2009, mais il chiffrait déjà que le coût du statu quo serait plus important qu'un effort dans le domaine. Bon, là non plus, c'est pas vraiment une surprise. Voilà. Et dans le rapport du GIEC, quand même, on trouve un graphique qui montre que, oh, surprise, le régime alimentaire le plus efficace, enfin celui qui émet le moins de gaz à effet de serre, c'est l'alimentation végane. Voilà, le potentiel d'atténuation des différents régimes alimentaires. Et puis dans les rapports de l'ADME notamment et dans le Shift Project, ils disent que l'éco-geste le plus efficace, celui qui représente 40% de ce qu'on peut obtenir à l'échelle individuelle, c'est aussi sur notre façon de consommer. Voilà. Évidemment, il y a la pollution des eaux. En France, si vous voulez faire un peu de tourisme, on a les algues vertes. C'est original. Voilà, voilà. Le gaspillage de l'eau. Alors, on a exclu les eaux de pluie, parce qu'à chaque fois, on nous dit « Oui, mais c'est pas 15 000 litres d'eau parce que vous comptez l'eau de pluie. » Bah oui, ok, d'accord, on la compte pas. Mais même si on la compte pas, c'est pareil. Il se trouve que produire de la viande, c'est beaucoup plus gourmand en eau que se nourrir de façon 100% végétale. Pareil, si on n'agit pas très rapidement, on le voit, là, il y a eu beaucoup d'actualités autour des questions de sécheresse. Alors, pas aujourd'hui, il pleut, mais quand même, ils disent que, par exemple, pour la France, ce serait 43 milliards d'euros pour la période 2020-2050. Donc pareil, là aussi, si on agit avant, on payera moins cher au final que d'agir en conséquence. L'emprise sur les terres, c'est pareil, hein, fruits, légumes, céréales, légumineuses, il faut bien moins de surface au sol que pour produire de la viande. La question des océans aussi, qui sont menacés par la dégradation, la destruction notamment par les activités de pêche industrielle, en plus des souffrances et des mises à mort des animaux qui sont absolument aussi terribles dans l'océan. La santé publique, alors là sur deux pans, les maladies qu'on peut avoir parce qu'on surconsomme des produits d'origine animale, bon, maladies cardiovasculaires, certains types de cancers, les infections qu'on peut attraper, pas de chance, les E. coli, la listeria, la salmonelle, les campylobactères, bon, et puis il y a de l'autre côté, grippe aviaire et virus comme ça, grippe porcine, etc. Vous savez qu'en ce moment il y a une grosse épidémie de grippe aviaire, la grippe porcine qui arrive, et puis parfois ça tombe en même temps que les grippes humaines. Et donc la grande crainte, c'est une recombinaison des virus qui ferait qu'il y ait une mutation et que... Alors là, pour l'instant, il y a des grippes aviaires qui sont passées à des êtres humains, mais encore pas d'être humain à être humain. Et ça, c'est la prochaine étape. Et une fois qu'on en est à cette étape-là, on a déjà vécu une première fois avec le Covid. Voilà, puis la grippe espagnole, c'était une grippe aviaire, en fait. Donc, ça aura des conséquences absolument gigantesques. L'antibiorésistance, c'est pareil. Avec des élevages où la génétique des animaux est très peu variable, qui sont confinés dans des espaces réduits, eh bien, c'est un super terrain pour les bactéries, pour apprendre à se défendre contre les antibiotiques, pour muter et tout ça. Donc, là aussi... ils estiment à 50 millions le nombre d'êtres humains qui mourra chaque année à l'horizon 2050. Là, c'est 12 500 en France, les derniers chiffres, je crois. Donc voilà, oui, l'influenza aviaire. Donc là, pour l'instant, c'est actuellement assez faible. Mais c'était passé de faible à moyen. Enfin voilà, ça fait des allers-retours. Et pareil, le coût de l'inaction. En fait, le coût de la prévention et de la réduction des risques, c'est 100 fois moins élevé que le coût de la réponse, si des fois ça devait arriver qu'on se prenne une petite pandémie. Voilà. Et c'est l'IPBES, hein, c'est pas des extrémistes qui le disent. Pareil, on peut parler de la question des éleveurs. Donc vraiment, la question, c'est qui est-ce qui y gagne, hein. Pour l'instant, l'environnement, ils y gagnent pas. Les éleveurs, est-ce qu'ils y gagnent? Pas vraiment non plus. Hein. 350 euros, c'est un tiers des agriculteurs en France qui touchent moins de 350 euros par mois. Le taux d'endettement, 187 000 euros en moyenne, 430 000 pour les éleveurs porcins. Un suicide tous les deux jours, c'est 20% au-dessus de la moyenne de la population. Et puis, très très peu, en fait, le nombre réduit, mais la taille des élevages continue d'augmenter. Et pourtant, en France, 90% des exploitations ont au moins une subvention. Et si vous regardez les élevages bovins lait, par exemple, c'est 100%. Pareil pour les bovins viande, on est à 99% pour les ovins caprins, polyculture élevage 99%, pour les porcins et les oiseaux 88%, 71%, enfin c'est quand même, c'est pas mal. Et si vous regardez maraîchage, 46%, bon, cherchez l'erreur. Voilà, il y a beaucoup de témoignages sur les ouvriers d'abattoirs, notamment Mauricio Garcia Pereira, qui était notre lanceur d'alerte pour l'abattoir de Limoges, par exemple, et puis Geoffrey Le Guilcher. 4 fois plus d'accidents du travail que la moyenne dans les abattoirs. Et 90% des personnes qui souffrent de tendinite, de lombalgie, les trucs des canals carpiens, etc., etc. Chouette boulot. Alors, est-ce que c'est une nécessité nutritionnelle? Bon, je passe, rapidos. Vous avez tous mangé des trucs ici. Ça va? Hein, on a vu. Alors nous en France, France, pays de la gastronomie et des caricatures, hein, arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants, donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie. Nous on part de là hein, quand même. Bon, voilà. Et c'était une polémique qu'ils ont eux-mêmes fabriquée puisque c'était pendant la pandémie qui voilà, c'était juste un menu unique sans viande mais avec du poisson, du lait, des œufs. Voilà, fausse polémique mais. Vraie parole d'un ministre engagé. Voilà, donc ailleurs qu'en France, a priori, on peut manger végétalien et continuer d'être en bonne santé, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà, et notre petite... Oula, les couleurs. Bon, je passe. Et c'est très très bon, et c'est très très riche. Bon, on est devant, en fait, une question de survie pour une partie de l'humanité. Alors, pas toute l'humanité, parce que j'imagine que y a des personnes qui vont continuer de pouvoir continuer de consommer de cette façon-là, quelques privilégiés. Mais les recommandations des scientifiques, c'est de baisser quand même la consommation de viande de 50 à 90% pour les pays riches. Et c'est 60% pour la consommation de produits laitiers. Et ça, c'est pour rester en deçà des 1,5 degrés de réchauffement global. Et c'est même en arrêtant immédiatement les énergies fossiles. Ça, c'est un rapport qui est sorti il y a quelques années. Même si on arrête les énergies fossiles du jour au lendemain, si on n'arrête pas, si on ne réduit pas la consommation de viande, eh bien, en fait, on dépassera quand même les 1,5. Alors, en France, on a plein d'opportunités là-dessus. Et surtout au niveau européen. Voilà, il y a plein d'opportunités. Donc pour les organisations qui agissent, ça vaut le coup de se tourner vers le niveau européen. En ce moment, il y a des discussions quand même assez importantes. Il y a une question de justice vis-à-vis des animaux, les considérer comme des cohabitants de notre planète et non comme des ressources. Et je pense que, voilà, passer à l'action, c'est la partie intéressante et il reste que 7 minutes, c'est cool. Donc bien sûr, pour passer à l'action, il y a les images, ici et maintenant, qui ouvrent sur les actions vers les politiques, les entreprises, le juridique, bien sûr le grand public, voilà, on ne va pas changer les gens un par un, on n'est pas sur une religion, on est sur un projet de société, sur un projet politique. Alors, au niveau de L214, on en fait plein, j'en présente que quelques-unes, mais on a une partie où on va essayer de stopper, d'arrêter les projets de création ou d'extension, on peut dire ferme-usine, élevage intensif, etc., où on va avoir des actions sur le web, des actions digitales, on va avoir des actions de terrain, où on va inviter les médias, et puis on va avoir des actions juridiques, permis de construire, permis d'exploiter. Alors j'ai mis des exemples, c'est pour moi, l'exemple de Pihan. Pihan, c'est un élevage qui est situé dans le nord de la France, et il se trouve que c'est un groupe belge qui encourage cet éleveur à continuer de s'étendre. Là, tout de suite, il a un élevage un bâtiment de 1000 m² dans lequel il y a 21 000 poulets. Il s'en sort pas financièrement. Et du coup, il y a un groupe belge, mais ça pourrait être un groupe français, mais bon, voilà. Je suis en Belgique, on va vite. Qui l'encourage à investir pour avoir 5 fois cette taille d'élevage. 1 million d'endettement, ils lui promettent de l'aider sur un an. L'endettement, 1 million, ça court sur 12 ans. Donc il va être aidé pendant un an, puis ensuite plus du tout d'aide. Et les projections qui sont faites, c'est si tout va bien. Si tout va bien, à la fin, vous aurez des super revenus. Sauf que si tout va bien, vous avez vu le prix du cours, le cours des céréales, vous avez vu les risques de grippe aviaire, on risque d'avoir des canicules, etc., etc. Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Voilà. Dans les actions qu'on a faites, donc pour cet élevage-là, on a montré les images de l'élevage actuel et puis on a réagi par rapport au permis qui était déposé. On s'était beaucoup investi contre la ferme des 1000 vaches dès le départ, 2011, avant même qu'il y ait la première pierre qui soit mise. Et en fait, on a réussi 10 ans plus tard à obtenir que l'élevage y ferme. Donc il s'est quand même mis en route. Et il a fermé. Mais comme quoi, bah, faut pas désespérer, faut continuer d'agir. Et l'association Novicène, qui s'était montée, qui était une association de riverains, vient juste de voter sa dissolution pour cause d'inutilité puisque la ferme des 1000 vaches a fermé. Il y a eu les poulaillers de Bressol aussi, sur lesquels on a réussi à remporter une victoire et faire que cet élevage ne se construise pas. Et puis, il y a Pure Salmon, où il y a eu des mobilisations qui ont été faites, notamment dans le nord de la France. Peut-être certaines et certains d'entre vous ont participé. Et donc, du coup, ils sont partis à Boulogne-sur-Mer. Vraiment, on n'est pas bien accueillis ici. Et là, ils sont du côté de Bordeaux, hein, pour essayer de s'implanter ailleurs. Donc, on voit bien que c'est un travail un petit peu sans fin d'essayer de stopper. Hein. Si je reviens en France, en Bourgogne, là, il y a autour de l'abattoir de Chaillé, ils veulent construire 80... Alors, ils disent 80 poulaillers. C'est un petit peu bucolique. C'est 80 bâtiments d'élevage dans lesquels ils vont enfermer des poulets, quoi. Voilà. Donc, on a développé tout plein de ressources sur le site de L214, que vous pouvez aller voir, où on montre un petit peu quelle démarche on peut entreprendre, etc., etc. Il y a les actions qu'on fait pour mettre les entreprises publiquement devant leurs responsabilités et leur faire prendre des engagements. Donc là, on commence par des mails polis pour soulever un problème. Donc c'est ce qu'on a fait pour les poules pondeuses, c'est ce qu'on continue de faire pour les poulets de chair et c'est ce qu'on commence à faire pour les cochons avec des actions qui vont s'enchaîner. C'est-à-dire qu'une entreprise à qui on demande d'arrêter d'utiliser des œufs de poule élevés en cage et qui dit « Ok, j'arrête d'utiliser des œufs de poule élevés en cage », voilà, bon, c'est sur leur site, etc. C'est un engagement. Super. Après, il y a des entreprises qui nous promènent un peu. Rediscutons-en. On reprend rendez-vous dans 6 mois. Voilà. Au bout d'un moment... on va engager, on va dire publiquement que cette entreprise ne s'est pas engagée à faire reculer le pire pour les poules pondeuses. Et pour ça, on va faire des campagnes publiques. Et normalement, tout se termine par un engagement public clair sur le site des entreprises. Pour les poules pondeuses, on a obtenu l'engagement de plus de 180 entreprises. Alors les entreprises, c'est la grande distribution. C'est les fabricants de produits, c'est l'hôtellerie-restauration et c'est même les producteurs. Je vous ai montré une vache à hublot, c'était le groupe Avril qui au bout d'un moment a dit ok, on s'engage, arrêtez de montrer des images de chez nous. Et en France, du coup, quand on a commencé nos actions en 2008, 80% des poules pondeuses étaient dans des cages. Et aujourd'hui, ce chiffre est descendu à 33% et les engagements courent jusque 2025. Normalement, en 2025, on devrait en avoir terminé avec l'élevage en cage. D'autant que les engagements, souvent, les entreprises disent « Ah bah oui, mais du coup... » les producteurs nous disent « Bah oui, mais du coup, les entreprises, elles vont importer. » Sauf que les engagements qu'on obtient, c'est de ne plus utiliser d'œufs de poule en cage. Donc que ce soit des œufs de poule en cage du pays, de la région ou du monde entier, ça marche pas non plus, quoi. Donc pour les poulets de chair, l'European Chicken Commitment, donc qui fait reculer le pire de ce qui existe pour l'élevage des poulets, et il y a une étude scientifique qui a été faite pour voir quel est l'effet de cet engagement. Et en fait, l'étude montre que 80% des souffrances insoutenables pour les poulets sont éliminées dès lors que le European Chicken Commitment, qui est un minimum, est appliqué. Les souffrances insoutenables, ils le mettent en parallèle avec ce qu'éprouverait un être humain. Un être humain qui éprouve ce genre de souffrance serait enclin au suicide. Donc c'est vraiment des douleurs hyper intenses. Et pour les cochons, ben, on vient de le lancer, donc to be continued. On fait partie de l'Open Wing Alliance, qui est une organisation internationale de coopération entre les organisations. Et ben, ça nous arrive d'avoir des campagnes internationales pour convaincre une entreprise de s'engager. Alors par exemple, on a fait pour convaincre Intermarché, alors ça c'est une action très très rapide, on a fait une vidéo, le poulet moche, puisque Intermarché en France, lui, axait sa communication à un moment sur les légumes moches, en disant que eux, ils vendaient des légumes moches et que c'était super de faire ça, machin. Nous, on a fait une parodie appelée le poulet moche, et en fait, ils se sont engagés en moins de 24 heures. Voilà, et parce qu'ils aimaient pas trop cette campagne. On a fait une campagne un peu Domino's Pizza. Voilà, donc nos campagnes, ça peut être des vidéos, souvent parodiques, parce qu'on aime bien, c'est... Voilà, ça bouge bien les entreprises. On l'a fait sur Lidl, on l'a fait sur d'autres aussi. Et puis, surtout, on a un réseau militant absolument exceptionnel. On a un peu plus de 40 groupes locaux. Bah, vous avez pu rencontrer les Lilloises et les Lillois qui sont là, qui tiennent un stand, d'ailleurs. Et du coup, on a des mobilisations devant les magasins. Et généralement, les enseignes apprécient moyen que leur clientèle soit au courant de leurs pratiques un peu moins vendeuses. Voilà. Et voilà, ça marche plutôt bien. Et puis, on a fait une opération serrée comme des poulets. Ça, c'est Burger King, qui n'est toujours pas engagé. Mais ça ne saurait tarder. Et donc, on s'est tous serrés comme des poulets dans une des enseignes. En politique, c'est pas le plus simple. Mais quand même, au niveau local, il y a moyen d'obtenir des choses. Au niveau local, on fait des campagnes publiques, notamment au niveau des élections. Et puis, on a attaqué de faire un classement aussi, pour classer les villes, sur les engagements qu'ils prennent ou pas. On a fait une charte dans laquelle vous avez un certain nombre de points d'engagement. Et cette charte va les pousser à avoir des politiques publiques qui sont impactantes pour les animaux. Donc, par exemple... dans la demande qu'on a, qu'on porte auprès des communes, il y a la demande d'avoir une délégation condition animale, une ou un élu condition animale, la modification du cahier des charges de la commande publique, exclure les produits issus de l'élevage intensif, exclure les produits de certaines conditions d'abattage, notamment abattage sans étourdissement, abattage au dioxyde de carbone ou suspension des oiseaux avant même qu'ils soient inconscients. On a des demandes qui concernent la pêche et la pisciculture. Et puis, on a des demandes de menus hebdomadaires ou d'options quotidiennes. Et dans la presse, cette semaine, il y avait un article pour la ville de Rouen qui adopte un plan sur 3 ans pour le bien-être animal. Et donc, c'est suite à la charte qu'on leur avait fait signer, où, du coup, alors ils ont pris la même formulation que le GIEC, hein, une alimentation durable, mais ils ont ajouté « et éthique », qui comprend une diminution de la part des protéines animales dans la restauration scolaire, donc ça, c'est les menus végétariens ou véganes qui arrivent, ou encore l'intégration du bien-être animal dans l'attribution des marchés publics. Ça, c'est les limites qu'ils vont poser aux producteurs dont ils prennent les produits. Ça, c'est très concret, ça va dans mettre des bâtons dans les roues de l'industrie de la viande. C'est très clair là-dessus. Alors, au niveau plus compliqué, au niveau national, pareil, on a des campagnes publiques, des interpellations, des enquêtes, on rencontre des parlementaires, on a des demandes concrètes et ciblées auprès du gouvernement, on travaille avec d'autres ONG, notamment sur les menus VG. Bon, on va pas se mentir, c'est plutôt maigre. Il y a quand même... En France, les menus VG dans la loi climat. On a obtenu la fin du broyage des poussins, mais pas forcément la fin de l'élimination des poussins, puisque le gazage reste autorisé pour les poules blanches, qui représentent quand même 15% des poules pondeuses en France. La fin de la castration à vif des porcelets, l'interdiction des nouvelles cages pour les poules pondeuses. enfin l'interdiction de construire de nouveaux élevages de poules pondeuses en cage. Tout ça, c'est encore assez maigre, hein. En France, on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs. Donc, voilà. Néanmoins, par rapport à il y a 15 ans en arrière, bah, c'est quand même des avancées. Ça veut dire que la machine est en train de se dégripper. Au niveau européen, il y a plein d'opportunités. Il y a la révision de la réglementation sur les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Voilà, où on va pouvoir s'appuyer sur notamment les avis de l'EFSA, par exemple sur les poulets. Ils recommandent de ne pas avoir plus de, alors ils parlent en kilos, 11 kilos par mètre carré de poulet. Aujourd'hui, dans les élevages, vous pouvez aller jusqu'à 42. Je ne sais pas si vous voyez le gap entre les deux. Donc si on réussit à obtenir 11, ça va être une révolution de ce côté-là. Et puis il y a des opportunités là sur justement l'alimentation végétalienne, puisqu'il y a plein de projets sur le Green Deal, etc. Ça, c'est des moments qui vont arriver, qui vont être super importants. On s'appuie sur des enquêtes, on informe les parlementaires, les commissaires européens pour essayer de faire bouger tout ça. Toutes nos actions, elle s'appuie sur le site Politique et Animaux. En tout cas, on répercute tout là-dessus. Et on a à chaque fois des lettres d'info, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les politiques. En fait, on s'appuie sur une demande citoyenne. C'est-à-dire que vous avez des actions, on a les actions express. En quelques clics, vous allez agir sur une entreprise qui n'est pas engagée. Et ça marche vraiment très, très bien. Voilà. Donc voilà, penser les actions plutôt globalement, agir sur les mentalités, vraiment, aller montrer les conséquences du spécisme très très directement, faire penser, laisser imaginer un monde où on ne considère plus les animaux comme de la nourriture, mais vraiment comme des cohabitants de notre planète, le défendre publiquement. Il y a agir sur le modèle agricole, donc là nous ce qu'on fait c'est essayer de faire reculer le pire pour le plus grand nombre d'animaux. Agir sur le modèle alimentaire, c'est diminuer le nombre d'animaux tués. Donc c'est la démocratisation de l'alimentation végétale. En France, on est vraiment à la traîne sur ce sujet-là. Et en fait, chaque action peut être sur divers leviers. C'est-à-dire, vous avez un levier politique, vous pouvez avoir en même temps un levier vers les entreprises. Évidemment, vous avez un levier grand public et vous avez à la fois un levier juridique. Et ça, c'est vraiment très important d'essayer d'aller sur l'ensemble des sujets. Nous, on appelle ça presser le citron. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des images. Les images, c'est extrêmement difficile à obtenir. C'est des risques. Voilà. Donc, une fois que vous avez des images, autant profiter du plein potentiel des images que vous avez obtenues pour essayer de faire avancer, essayer de cranter les choses petit à petit. Et puis, on pense que ça va forcément s'accélérer. Voilà. Et je vous propose de croquer la vie et pas les animaux. Oh, j'ai dépassé que de 5 minutes.
Okay. Bien, merci beaucoup. C'est clair et très inspirant. On a maintenant un petit peu de temps pour des questions, donc n'hésitez pas, j'imagine que vous pouvez tout disposer. Ouais.
Dans un des slides au début, j'ai vu le mot démocratisation de l'alimentation végétale.
Oui.
Vous vous référez au coût, ou bien en Belgique en général, on a l'impression que l'alimentation végétale est un peu moins chère. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que vous référez.
Alors,
c'était au début.
Ouais, mais c'est un peu les deux. C'est-à-dire, ça doit être là.
Oui,
c'est
plutôt sur le bas.
C'est ça. Alors, c'est un petit peu tout. Justement, démocratisation. Déjà, alors, nous, on part de la France. Donc, l'alimentation végétale, c'est vu comme « Oh là là, on ne mange pas de viande, mais on va avoir faim. » Voilà. Donc, il y a vraiment le fait de faire reconnaître qu'une alimentation végétale, elle peut répondre tout simplement, enfin, c'est un vrai menu. Voilà, si vous allez dans un hôpital en France, qu'on va vous servir, c'est juste des légumes. Ce sera même pas des légumineuses et des céréales, juste on vous sert, quand vous avez de la chance, des patates, un peu de carottes et 3 haricots verts. Donc voilà, c'est vraiment de faire prendre conscience que manger en plant-based, manger vegan, c'est avoir un vrai repas. C'est-à-dire, voilà, pas juste de la salade, quoi. Donc il y a ça. Et les prix, c'est vrai, c'est un sujet aussi, puisque les alternatives qui se développent en France, alors il y a beaucoup d'innovations et tout ça, sauf que souvent, c'est des produits effectivement transformés. Enfin, il n'y a pas quelque chose d'assez simple, en fait, qui se développe. Vous passez par des steaks végétaux, des saucisses, et tout ça, ça a un prix aussi. Donc voilà, et c'est aussi dans les cantines. Aujourd'hui, les gestionnaires de cantines nous disent « Ouais, on fait des plats végétariens, mais souvent, c'est pas bon. » Ben voilà, si votre première expérience de repas végétarien, c'est quelque chose qui est pas bon, ça ne va pas. Donc il y a vraiment un enjeu, en tout cas en France, à démocratiser, c'est-à-dire que tout le monde puisse y avoir accès et que tout le monde ait accès à quelque chose qui soit bon et qui ait envie, enfin qui ait un goût de revenez-y, quoi. Enfin voilà. Ouais. Comme voilà. Exactement.
Bonjour. Bonjour. Ce serait pour avoir votre avis sur le travail des animaux dans l'agriculture dans un monde sans pétrole.
Vous avez 3 heures. très bonne question. Alors, j'ai pas la réponse. Si c'est juste pour leur faire caca sur les parcelles, je pense que ça va. Voilà. Ça, c'est du boulot, hein, quand même. Enfin, je veux dire. Et après, prendre en considération les intérêts des autres animaux. Voilà. Y a un livre de référence là-dessus, c'est Sue Donaldson et Will Kimlicka, qui ont écrit le livre Zoopolis et qui donnent quelques pistes. Mais jusqu'ici, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'exploration de quelles pourraient être des collaborations avec les autres animaux. Parce que nous autres humains, il faut bien le dire, quand on est dans des collaborations, souvent, ça se transforme en domination. On a une tendance quand même à... Voilà. Donc il y a un côté un petit peu dangereux de se dire « Ah bah tiens, si tu me tires une charrue, tu auras le gîte et le couvert en échange, des jours de congé, la retraite et tout ça. » On voit bien que c'est pas gagné. Donc voilà, ouais. Mais peut-être dans une société qui réellement prend les intérêts des autres au sérieux, peut-être il pourrait y avoir des formes de coopération où tout le monde en sort gagnant, quoi. Voilà, même s'il y a un effort à faire de part et d'autre ou je sais pas quoi. Mais voilà. Donc j'ai pas une réponse très claire là-dessus. Je pense qu'à partir du moment où on arrêtera de considérer que les autres animaux sont simplement des ressources pour nous, peut-être on pourra voir les choses vraiment différemment.
Moi, je voulais juste avoir votre avis. À titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'alternatives à la viande dans les supermarchés, notamment. Alors, à Bruxelles, je sais que Bruxelles étant une capitale, ça change d'extrême. Et je remarque aussi, je sais qu'en France, il y a eu un grand débat sur l'interdiction d'utiliser des mots comme steak ou lait pour des choses qui n'étaient pas la vraie viande ou des produits laitiers. Et je remarque, par exemple, le cas de Aost, qui, à la base, est une marque qui est très spécialisée dans le jambon. J'ai remarqué que maintenant, ils proposent même des alternatives végétales, ce qui est un peu étonnant. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est la démonstration qu'il y a un vrai changement sociétal, ou est-ce que c'est la démonstration d'un opportunisme plutôt industriel qui espère gagner sur tous les plans, enfin, pour avoir votre avis.
Je dirais les deux, mon capitaine. Hein. Je pense que... Il voit l'opportunité parce que le monde est en train de changer. Donc effectivement, nous, on attend les steaks charal vegan avec une certaine impatience. En se disant que là, oui, il y aura vraiment un shift qui sera fait. Hein. C'est la même chose, Herta a lancé sa gamme végétale. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, de la viande qui se lancent là-dessus. Il y a des entreprises de la viande aussi parmi les gros investisseurs dans la viande cellulaire. C'est des poids lourds de l'exploitation animale aussi. Donc, Voilà. Donc il y a une part d'opportunisme, enfin forcément. Enfin, ils le font pas juste en se disant oh tiens, je vais le faire par bonté d'âme ou je sais pas quoi. Non, enfin c'est très clair que pour eux c'est des parts de marché dont il faut saisir. Mais du coup c'est un bon indicateur pour dire que effectivement il y a une tendance prononcée qui va vers vers une alimentation végétarienne. Voilà, végétalienne pour une part, mais surtout végétarienne a priori. Sans viande en tout cas, sans viande ni poisson.
En fait, juste à ce sujet-là, vous parlez par exemple de RK, qui fait un peu les deux. Voilà. Est-ce que la position de L214, c'est plutôt d'encourager quand même ce qu'ils font pour le végétal ou plutôt de dire cette marque-là, comme ils font les deux, on n'en veut pas? C'est un peu difficile.
Bah, nous, on est à la fois dans l'encouragement des marques ou de tout le monde. Plus on va vers le végétal, moins c'est pire, donc tant mieux. Et puis, bah, ça ne va pas nous empêcher de dire, quand on a à le dire, qu'il y a des... Bah, l'exemple d'Erta est tout à fait emblématique. On a porté plainte contre des élevages qui sont sous contrat avec Erta. On a porté plainte contre Erta pour tromperie du consommateur en ce qui concerne justement la partie élevage des cochons. Et par ailleurs, bah, ils ont des options véganes aujourd'hui. Voilà. Enfin, après, c'est pas coller une étiquette sur quelqu'un en disant bah, celui-là, jamais on va pouvoir lui parler ou je sais pas quoi. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment Bon, déjà, on s'inspire beaucoup de Henri Spira, qui a écrit, enfin, qui a inspiré le livre qui est un peu coécrit avec Peter Singer. Alors en français, ça s'appelle La théorie du tube de dentifrice. Où justement, il souligne le fait qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Il y a des personnes ou des entités qui peuvent discuter ensemble d'un certain nombre de choses et qu'on peut faire avancer. Donc nous, on va toujours être dans l'encouragement de ce qui va plutôt vers quelque chose de moins pire et puis vraiment aussi dénoncer ce qui est le pire du pire. Voilà, parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas... On ne croit pas en la révolution de la journée de demain, mais plutôt essayer de faire avancer petit à petit, faire reculer le pire, propulser ce qui peut se passer de mieux. Et voilà.
Moi, j'en profite, j'ai le micro, j'ai une
question. Oui,
je voulais savoir un petit peu si la renommée finalement d'L214, parallèlement à la criminalisation des animalistes qui est forte en France, j'imagine qu'il y a des difficultés maintenant dans votre pratique de tous les jours, notamment au niveau de l'infiltration dans les élevages, tout ça, ça devient un peu compliqué ou pas nécessairement, voilà, comment tout ça agit sur les militants, c'est donc compliqué.
Alors effectivement, on se sent pas mal surveillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en France, on a la particularité d'avoir une convention qui a été passée entre le ministre de l'Intérieur, la gendarmerie, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont deux syndicats agricoles productivistes. Alors pas tous les syndicats agricoles, mais juste la FNSEA qui est le plus gros syndicat en France. Pour suivre et prévenir les actions de nature idéologique, donc en ce qui concerne les activités militantes animalistes et environnementalistes. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées qui sont plutôt intimidantes. Alors par rapport à L214, nous on a observé qu'on était un petit peu plus auditionnés à la sortie d'une enquête. On était convoqué par la gendarmerie pour aller répondre de comment vous avez obtenu ces images. Voilà. En tout cas en France, on a le droit de garder le silence. Donc, voilà. Donc on a porté plainte, enfin en tout cas on a fait un recours contre cette convention et on a gagné auprès du tribunal administratif le fait qu'effectivement cette cellule ne devait pas. Devait être démantelé sur cette partie-là de surveillance et de prévention des actions animalistes et environnementalistes. Sauf que, a priori, ça n'a pas eu d'effet pour l'instant. Il y a eu appel, le ministère a fait donc appel de la décision, a demandé un sursis à exécution. Sauf que, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles et ça fait un peu plus d'un an maintenant que la décision, c'était février 2022. Donc on est toujours devant les tribunaux pour l'instant. Après, on a eu plusieurs procès. Alors, il y a des procès où on était sur le banc des accusés. On a toujours été acquittés, relaxés, ça s'appelle. Par contre, on a eu des images qui ont été supprimées. Et là, il y a une bataille juridique en France pour savoir si oui ou non, entre plusieurs droits qui s'opposent, comment ça se passe? Est-ce que les images qu'on a obtenues, elles peuvent continuer d'être diffusées ou pas? Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne nous a pas vraiment freiné. Hein. Je dois dire, pas vraiment. Ouais. C'est, pour nous, vraiment, les images, ça nous semble très important parce que, au tout début, on distribuait des tracts avant de créer L214. On distribuait des tracts et les gens nous disaient « Mais non, ce que vous montrez comme pratique, c'est pas en France, c'est en Pologne, c'est aux États-Unis, mais nous, en France, on fait pas comme ça. » Ou alors c'est « ce que vous montrez, c'était il y a 50 ans, ce que vous nous décrivez, c'était il y a 50 ans. » En fait, devant les images, il n'y a pas moyen d'essayer de se défausser, quoi. Et donc, ça nous paraît vraiment super important de continuer de montrer ces images. Merci à vous.